Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut les gars, j'espère que ça va. Je suis avec Marc en studio et je vous laisse ce message pour vous confirmer que la deuxième partie du podcast avec Nicolas Ourcade est montée. Il s'agira cette fois-ci de parler du pouvoir réel ou non des ultras au sein des clubs de foot, la difficulté des interdictions de supporters adverses à l'extérieur, de comment faire un bon déplacement, comment organiser un déplacement, comment ça se fait que les autorités n'arrivent pas, et plein d'autres questions autour des ultras et un peu de leur diabolisation. J'espère que cette deuxième partie vous plaira. À très vite.
Alternative football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative football.
Est-ce que justement, c'était l'un des points que j'évoquais tout à l'heure par rapport à la répression, est-ce qu'on n'a pas trop interdit de déplacement? Est-ce que la multiplication des arrêtés préfectoraux, pour des raisons plus ou moins valables, est-ce que c'est pas un petit peu cacher le problème sous le tapis et ne plus savoir le gérer quand il se présente? Un des exemples marquants des derniers mois, c'est la finale de la Ligue des Champions Stade de France, où le flux a été extrêmement mal géré, et on a vu les problèmes que ça a créé derrière. Il y a effectivement l'épisode tragique de Nantes il y a quelques semaines. Est-ce que tu penses que l'explication de ces phénomènes vient aussi du fait qu'on décide de ne pas gérer en disant simplement c'est interdit et du coup de ne pas s'attaquer au cœur du problème qui est la gestion du supporter en déplacement?
Ah, je pense que ce que tu dis est juste, donc il va falloir que j'essaye de rajouter des choses puisque tu me poses une question. Mais la spécificité de la France par rapport à d'autres pays comme l'Angleterre ou l'Allemagne dont on parlait tout à l'heure, elle est à deux niveaux. C'est d'abord de ne pas avoir enclenché de politique globale de lutte contre l'hooliganisme dans les années 90. On fait un peu des lois comme tous les autres pays le font, mais on ne met pas en place un dispositif général de traitement des violences. On commence à le faire en 2010 avec la création de la division nationale de lutte contre l'hooliganisme à l'automne 2009, puis après la mort de Yann Laurent autour du Parc des Princes avec le plan Lepro à Paris et tout un ensemble de dispositifs qui vont permettre d'interdire de stades de manière administrative, donc par les préfets et plus par la justice des supporters, et puis surtout la création des interdictions de déplacement. Entre 2010 et 2016, on a une politique qui se met en place un peu de tolérance zéro, pour le dire comme le disait le patron de la division nationale de lutte contre l'hooliganisme à l'époque. Et la deuxième spécificité, c'est que cette politique, elle repose sur des choses qu'on retrouve très très peu en Angleterre ou en Allemagne, que les supporters dénoncent comme des sanctions collectives. C'est-à-dire qu'en France, quand on a créé ce qu'on appelait à l'époque, au moment de la loi en 2011, des couvre-feux anti-supporters, donc ce qui sont les arrêtés d'interdiction, alors c'est plus compliqué que ça, mais on va parler d'interdiction de déplacement, parce que ça dépend selon que c'est la préfecture, le ministère de l'Intérieur qui prend, ils n'ont pas les mêmes prérogatives, mais bon. Les interdictions de déplacement devaient être pour des matchs très très risqués, un Lyon-Saint-Etienne, un PSG-OM, etc. Et ça a été très très fortement multiplié depuis. Et donc là, on prive tous les supporters en déplacement de la possibilité de suivre leur équipe. Et il y a aussi la tendance qui est très atypique de la commission de discipline de la Ligue de football de fermer des tribunes ou de fermer des stades quand il y a des incidents, mais aussi quand il y a de la pyrotechnie. Pour les gens qui sont supporters du PSG dans cette salle, dès qu'il y a un anniversaire de groupe de supporters du PSG, ensuite il y a 2-3 matchs où ils ne peuvent plus aller au stade. Et donc cette manière d'agir symboliquement, elle est forte parce que tu as l'impression qu'il y a des actes forts qui sont pris, mais en fait ça a plein d'effets pervers. C'est-à-dire que tu prives de déplacement aussi bien des gens qui font n'importe quoi que des gens qui se comportent très bien, ou tu prives de stade les 50 qui font des conneries, mais aussi les 5000 qui n'ont rien fait. Et quand le stade réouvre, tout le monde revient, y compris les 50 qui ont fait des conneries. Les Anglais et les Allemands, pour avancer dans la lutte contre l'hooliganisme, ils ont identifié choquer les gens. Et à partir de 2016, la loi que j'évoquais tout à l'heure, la France a essayé d'aller dans une politique un peu à l'allemande, d'articulation, répression, prévention, etc. Mais sans vraiment une ligne directrice claire, avec certains, notamment préfets, qui continuent à interdire. D'autres qui disent « vaut mieux équilibrer ». Il y a eu des circulaires des ministres dans des sens différents. Là, en octobre, la ministre des Sports et le ministre de l'Intérieur font un courrier au préfet très clair en disant « on interdit que quand il y a vraiment des matchs à risque ». Et le ministère de l'Intérieur fait tout le contraire un ou deux mois plus tard. Donc effectivement, par rapport à la question que tu poses, c'est une vraie question. C'est-à-dire que la France a... dès qu'il y a un match à risque, c'est devenu une solution de facilité d'interdire les déplacements. Et donc du coup, quand on est face à des situations compliquées qu'on est obligé d'organiser, notamment sur des matchs internationaux, on n'a plus ses habitudes, on ne sait plus forcément faire. Et si on regarde, sans se flageller, hein, mais si on regarde sur le dernier quart de siècle, en fait, quand la France organise des grandes manifestations de foot, c'est assez fréquent qu'il y ait des incidents, ouais. Il faudrait que ça nous pose des questions. Par exemple, la Coupe du Monde 98, c'est totalement oublié parce qu'on a gagné, mais il y a quand même des émeutes majeures à Marseille.
Bien sûr,
Angleterre-Tunisie. Et il y a quand même le gendarme Nivelle qui est grièvement blessé avant l'Allemagne-Yougoslavie. À l'époque, on ne gère pas bien. En 2000, les Belges sont aussi un peu plantés sur un match à Charleroi, mais les Allemands en 2006, il y a eu des incidents, mais pas de cette ampleur-là. Et en 2016, au tout début du tournoi, on se vautre à nouveau sur Angleterre-Russie dans les grandes largeurs. Alors après, la France récupère le truc, on arrive à... donc on peut voir le côté positif, ils ont suggéré la fin du tournoi, mais on s'est quand même planté. Et là, sur la finale de Ligue des Champions 2022, c'est un vrai gros problème parce que l'approche n'est pas bonne, parce qu'on traite les supporters de Liverpool comme des hooligans, ce qu'ils ne sont plus la plupart.
Et depuis des années.
Parce qu'on se plante dans la gestion des flux, parce qu'on fait plein d'erreurs. Et au lieu de dire... Bon, on a fait des erreurs, on s'excuse. On vient de dire aux Anglais que c'est leur faute, alors que c'est grâce aux Anglais qu'on n'a pas de morts. Ouais. C'est parce qu'ils ont connu le Sboro, parce qu'ils se sont déplacés partout et parce qu'ils savent que là, ils sont dans une situation extrême, qu'ils restent calmes, ouais. Alors qu'ils en prennent plein la gueule par les gens qui les détroussent, par les flics qui les gazent, etc. Et que finalement, il ne se passe rien. Donc, c'est sûr que cette finale de Ligue des Champions 2022, elle doit nous questionner. Il faut qu'on s'interroge sur nos dispositifs. Et tant qu'on ne teste pas des dispositifs robustes, on ne sait pas forcément les gérer. On voit par exemple sur la Coupe du Monde de rugby, globalement ça s'est bien passé, mais on s'est vautré sur un match à Marseille, sur certains matchs à Bordeaux, sur les déplacements de supporters où les flux n'étaient pas bien gérés. Donc qu'on soit bien clair, hein, les premiers responsables quand il y a des incidents, c'est les supporters violents qui cherchent à se battre. Mais on a aussi, les autorités doivent aussi apprendre à mieux gérer ça. Et là, le cas le plus fantastique, c'est l'Anse-Séville. On ne peut pas interdire par une vidéo sur Brut deux jours avant le match, 300 supporters de Séville de venir. D'abord parce qu'on se ridiculise à l'échelle européenne. Ça veut dire qu'on n'est pas capable d'encadrer si peu de supporters. Donc pour l'image de la France, c'est pas bon. Et quelque part, ça veut dire qu'on s'entraîne jamais. Et vraiment, il faut qu'on soit conscient que depuis la finale de la Ligue des Champions 2022, l'image de la France en termes d'organisatrice de grands matchs a décru. Et il y a aussi un point, je voudrais finir là-dessus, c'est que en fait, en Angleterre ou en Allemagne, ils ont connu des problèmes de violence, ils ont eu des morts, ils ont eu des problèmes supérieurs aux nôtres. Je minimise pas ce qu'il y a en France, mais il y a l'idée que le foot, c'est quand même quelque chose d'important, et donc on peut pas priver des fans qui ont rien fait de déplacement. Et en France, culturellement, le foot est quelque chose de moins important, donc l'idée d'interdire des gens de déplacement, ça s'entend beaucoup plus facilement. J'attire votre attention sur le fait que c'est pas absurde. Hein. Tu peux tout à fait tenir le raisonnement que la police a autre chose à faire que sécuriser des matchs de foot, on a des risques terroristes, il y a tout un ensemble de sujets sur lesquels la police est mobilisée, qu'il faudrait avoir moins de forces de l'ordre sur les stades, j'entends ça. Mais la France a quand même vraiment un rapport au foot différent qui fait que dans les années 2010, comme je l'évoquais, on a pu prendre des mesures très radicales contre les supporters sans qu'on se rende compte vraiment des impacts que ça avait sur les libertés publiques et sur finalement une masse de supporters qui n'avait pas causé de problème. Et donc, pour moi, le gros enjeu aujourd'hui, c'est qu'on arrive à tirer des leçons de ce qu'ont fait d'autres pays. Et tant qu'on n'arrivera pas à individuellement identifier les fauteurs de troubles dans les stades et les écarter durablement des stades, on nous parle d'interdiction de stade à vie. Bon, ça existe dans aucun pays. En France, ça peut aller jusqu'à 5 ans. Or, même quand des gens font des grosses conneries, ils ont rarement 5 ans d'interdiction de stade. Si on mettait déjà 5 ans d'interdiction judiciaire de stade à tous ceux qui font des bonnes grosses conneries dans les stades, tu apaises quand même très très fortement la situation.
Et pourquoi, ils, tu... font...
Vas-y.
Non, mais parce que tu touches à un point central qui revient très régulièrement, et ça je le note, c'est sur tous les sujets qu'on pourrait traiter, le côté culturel de la France vis-à-vis du foot et du sport revient souvent. Le côté, de toute façon, auquel le sport, c'est un loisir, c'est le foot, c'est sûrement un truc de beauf, donc il y a un manque de considération pour le sujet sportif et le sujet football qui, je pense, amène à ce genre de problème.
Alors que Darmanin était arbitre.
Oui, foot. Alors
on a fait son portrait dans son foot, oui, Darmanin arbitre.
J'ai lu ça.
Et il y a quelque chose. Tu as évoqué Yann Laurent et ce fameux PSG Marseille, et on a évoqué les interdictions de déplacement. Je trouve qu'on oublie régulièrement que l'un des facteurs de ce qui se passe ce soir-là, et je suis bien placé pour en parler parce que j'étais en tribune Auteuil, c'est que c'est une des premières interdictions de déplacement. C'est qu'il n'y a pas les supporters marseillais ce soir-là. Et l'une des raisons pour laquelle tu as une cristallisation des tensions entre les supporters des virages, c'est le fait que...
T'as pas d'ennemi commun.
C'est-à-dire que dans le stade, à l'époque, les supporters adverses étaient collés au virage Auteuil. C'est plus le cas maintenant. Ils sont dans la diagonale opposée.
Ouais, ils sont côté Boulogne.
Ils arrivaient soit... avant, soit juste après le coup d'envoi, mais de fait, t'avais quelque chose qui était lié au mouvement ultra, qui était te dire, ils vont venir faire du bruit, donc on doit tenir notre terrain par le chant, par l'animation des tribunes, et ça se concentrait sur ça. Ce soir-là, et après c'est pas forcément lui, on peut revenir sur le détail de ce qui s'est passé, comment ça s'est organisé, etc. Il y avait pas ça, c'est-à-dire que donc t'as eu une cristallisation des tensions entre les deux tribunes. Il y a eu
Sur ce match-là, c'est intéressant ce que tu dis. J'apprendrai juste une nuance. C'est-à-dire qu'on est sur ce match-là, sur une succession de violences très très fortes entre les hooligans de Boulogne et certains groupes ultras du virage Auteuil. Donc là, la cristallisation, l'opposition, elle était déjà très très forte. Il y a des incidents très très graves à Lille PSG quelques semaines avant. J'avais participé, en janvier 2010, la secrétaire d'État au sport à l'époque, Ramayad, organise un congrès national des associations de supporters pour justement essayer de pacifier un peu la situation. Les Parisiens avaient refusé de venir, mais on avait pu faire une réunion préparatoire où il y avait des représentants de l'UTS Falco, du Supra Auteuil et du COP de Boulogne, tous les cinq côte à côte, hein, ouais, d'accord, ouais. Qui ont dit eux-mêmes, la situation est explosive, ça a commencé à dégénérer, on ne va pas tenir nos plus radicaux. Et ce qui est très embêtant sur ce match-là, c'est alors qu'il n'y a pas de supporters marseillais, alors qu'on sait que la situation est explosive. Il y a quand même une rue qui est ouverte, qui permet à Boulogne d'arriver devant Auteuil. Et donc là aussi, on voit ces questions d'organisation de match, et c'est crucial. C'est-à-dire que les premiers responsables, on l'a dit, on le redit, des incidents, c'est les supporters qui se battent, mais on a quand même une expertise à avoir pour éviter ça, éviter certains erreurs de flux. Et juste pour revenir sur ce qu'on disait sur la culture du foot en France, il y a quand même... c'est pas des choses qui sont intangibles, il y a quand même des choses qui évoluent. C'est-à-dire que quand moi j'étais jeune, vraiment le foot c'était pour les bofs. Hein. Moi j'ai fait une classe prépa littéraire, t'es supporter de foot dans une classe prépa littéraire, tu passes vraiment pour le neuneu. Quoi. Mais là vraiment tu passes vraiment pour le neuneu. Et si on regarde les derniers présidents, où tout le monde voit l'image de Chirac en finale ouais. 98, tu connais même pas les noms des joueurs.
Qui dit Zazie ou le Jersey.
Voilà, c'est ça. Nicolas Sarkozy. Il est fan de foot,
ouais, il est
fan du PSG. Mmh. Emmanuel Macron, je pense qu'il aime le foot, il est fan de l'OM, on peut en discuter, mais il aime le foot. François Hollande est un grand passionné de football, et donc ça montre aussi quand même une évolution du rapport au foot, auquel aussi des médias comme SoFoot ont participé, c'est-à-dire qu'après, autour de la Coupe du Monde 98 et ensuite, va se développer via les débuts d'Internet, via certains médias, tout un ensemble de cultures autour du foot, et moi il y a des trucs qui ont pu me marquer, c'est-à-dire que tu as eu des expos dans des grands lieux, au MUCEM, à l'Institut du Monde Arabe, dans des musées régionaux, des grandes expos sur le football, y compris sur la culture des tribunes. Et moi, un truc qui m'avait amusé, mais vraiment, à Pantin, là, pour la Coupe du Monde 2018, t'as une grande expo sur le foot et sur la culture tribune. Et donc, moi, j'ai été supporter, puis sociologue, j'ai observé dans les années 90 les premiers tifos, etc. Et je voyais comment c'était difficile à l'époque de faire participer les gens dans les tribunes, ils comprenaient pas pourquoi tu leur donnais des feuilles, qu'est-ce que ça allait faire, qu'est-ce que tu m'emmerdes. Aujourd'hui, les gens te demandent la feuille pour participer au tifo. Et là, tu arrives dans un lieu culturel. Et tu as une médiatrice, une étudiante en histoire de l'art qui vient te dire « Alors voilà, les tifos, c'est ça. Et regardez, les MTP à Marseille, ils font ça. » Donc, je l'ai laissé dérouler son truc parce que c'était tellement, quelque part, marquant. Ouais. Ça marquait une évolution incroyable.
Bah pour toi, tu as dû voir l'évolution entre le moment où tu commences.
Tu vois l'évolution, tu vois le truc. Tu te dis au départ que personne ne comprend ce que tu fais. Et 20-30 ans après, c'est dans un musée à dire « Oui, alors, le tifo, ça fait partie de la culture. » Donc, effectivement, la culture du foot, ce n'est pas celle en France, de l'Allemagne ou de l'Angleterre, ça c'est certain. Mais il n'empêche qu'il y a des choses qui évoluent et il y a une légitimité un peu plus grande. Et aujourd'hui, par exemple, sur les questions des privations de liberté des supporters, on arrive à avoir des discours un peu équilibrés. C'est-à-dire qu'à certains moments, effectivement, quand il y a trop de dangers, qu'on interdise un déplacement de supporters, tout le monde peut l'entendre. Là, je sens pas s'il y a un nouveau Marseille-Lyon, on ne va pas refaire venir les Lyonnais. Enfin, ce serait complètement absurde à court terme. Par contre, il y a plus de gens qui peuvent comprendre qu'il y a quand même des questions qui se posent sur jusqu'à quel point on atteint les libertés des supporters de foot. Et ça s'est vu notamment quand il y a eu des projets, par exemple, d'interdiction administrative de manifester, comme on peut avoir des interdictions administratives de stade, dont on parlait tout à l'heure, des interdictions individuelles. C'est-à-dire qu'avant même que tu aies fait quoi que ce soit, on peut t'interdire de stade sur la base d'un rapport de police parce que tu as fait telle ou telle connerie. Ce qui présente plein d'avantages. C'est-à-dire que là, tu n'as pas besoin d'attendre la procédure judiciaire et un préfet peut dire bah, « cet individu, il est dangereux, je l'interdis dit de stade 3 mois, 6 mois, ok. Sauf que c'est une mesure qui a pu être dévoyée, qui a été beaucoup utilisée pour l'allumage de fumigène ou pour la contestation du plan Le Pro à Paris avec beaucoup d'interdictions. Et si tu appliques ça aux manifestations, comme il y a eu un projet, Edouard Philippe a eu un projet en 2019, ça veut dire que si moi j'ai envie de manifester, on peut m'interdire préalablement sans que j'ai rien fait parce qu'on suppose que j'ai mal me comporté. Et là, les gens se sont dit, ah oui, c'est quand même un peu bizarre. Et Sacha Houllier et Marie-Georges Buffet ont fait un rapport là-dessus sur le supporterisme. Donc Sacha Houllier est le président de la commission des lois, Marie-Georges Buffet ancienne ministre des Sports, donc c'est pas n'importe qui. Alors Sacha Houllier n'était pas président de la commission des lois au moment du rapport en 2020, mais on a quand même un président de la commission des lois en France qui est un supporter assumé de l'Olympique de Marseille et qui est un fan de foot. Voilà, il y a des évolutions qui sont fortes, ce qui fait que moi je m'étais épluché tous les débats parlementaires. Alors dans les années 90, je ne les avais pas observés en direct, mais j'ai épluché ensuite. J'ai épluché dans les années 2006, 2008, 2010, 2011. C'est pitoyable. Enfin, je veux dire, les gens ne comprennent, les députés et les sénateurs, pour la plupart, ne comprennent pas de quoi ils parlent et prennent des mesures qui, certaines, peuvent se comprendre, d'autres sont un peu absurdes. À partir de 2016, il commence à y avoir dans l'hémicycle des gens qui sont informés, des gens qui comprennent les enjeux, qui peuvent prendre des mesures répressives parce qu'ils ont compris pourquoi, ou des mesures préventives. Et ça s'explique aussi par le fait qu'il y a une constitution, on n'en a pas trop parlé, des associations de supporters de manière à la fois locale mais aussi nationale. À l'échelle nationale, aujourd'hui, il y a l'Association nationale des supporters en France qui rassemble des groupes ultra mais pas que, et qui est capable d'aller travailler avec les parlementaires pour expliquer pourquoi il y a tel ou tel problème, qui sont capables d'aller, comme ils l'ont fait aujourd'hui au Conseil d'État, pour contester des arrêtés d'interdiction, qui sont capables aussi à un moment de ne pas contester certains arrêtés parce qu'ils savent eux-mêmes qu'il y a un risque. Donc on a aussi une maturité des acteurs collectifs supporters qu'on a aujourd'hui et qu'on n'avait pas il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années. Donc, si on revient sur la situation actuelle, on a eu des violences récentes, il faut les situer dans un contexte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a une augmentation des violences. Pour ceux d'entre nous qui ont connu les années 90 autour du Parc des Princes ou même les années 2000, dire qu'il y a une augmentation des violences aujourd'hui, ça fait rigoler parce que c'est pas vrai. Voilà. Donc, par contre, il n'y a pas d'augmentation des violences par rapport à 20 ou 30 ans. Par contre, il y a un peu plus de violence depuis le retour de la crise sanitaire. Il n'y a pas d'augmentation de la violence entre cette saison et la saison dernière. En revanche, il y a eu des faits très graves. Les incidents sont été des gros incidents. Et donc, là, l'enjeu pour les traiter, c'est de ne pas se dire qu'on va appliquer telle solution miracle en sortant la baguette magique, mais de voir les expériences étrangères. Ça repose toutes, on a parlé de l'Angleterre ou de l'Allemagne, sur une politique globale et cohérente qui articule les différents acteurs, qui n'est pas forcément la même dans les deux pays, mais qui est cohérente. Et la France a quand même certains outils. On a les référents supporters à l'échelle des clubs, on a cette instance nationale qui permet aux gens d'échanger. La division nationale de lutte contre l'hooliganisme, si elle était renforcée, pourrait faire un travail d'anticipation des risques encore plus important. Et je pense qu'on a tous pris conscience au niveau des responsables du football que c'est l'anticipation de l'organisation des matchs qui permet qu'il se passe bien. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, on n'arrive pas toujours à le faire. C'est-à-dire que tout le monde est conscient qu'il faut faire avant un mois avant, il faut voir comment j'organise le match. Et ben, dans certains cas, ça se fait. Et dans d'autres cas, trop souvent, ça se fait pas. Et on se retrouve trois jours avant le match à avoir une interdiction qui tombe de nulle part. Si tu interdis un mois avant un PSG-OM aux supporters marseillais de venir à Paris dans un contexte 6 mois avant les Jeux Olympiques d'épuisement des forces de l'ordre, je pense que les gens peuvent le comprendre. Si tu interdis un Lorient-Strasbourg, les déplacements de Strasbourg à Lorient, je pense pas qu'il y ait eu ça récemment. Enfin, on a eu des matchs mineurs avec des interdictions de déplacement qui tombent 3 jours avant, ça les gens le comprennent pas.
On a toujours un peu la danger sur la France, sur le côté culturel dont on a parlé, sur aussi à raison la gestion des supporters, notamment des flux des supporters qui se déplacent, etc. Il y a un truc, je pense, qu'on peut en revanche reconnaître aux supporters et aux clubs français, c'est que quand ça se passe bien, t'as des vrais spectacles dans les stades. Et c'est pas le cas partout. On parlait de l'Angleterre, l'Allemagne dans une moindre mesure. Le côté acteur du supporter et des ultras, il est avéré et assumé. Tu parlais tout à l'heure de quelle place on lui donne, à quel point ce sont des protagonistes. Ça, c'est quelque chose qu'on arrive encore à faire en France. On sait le faire. En Angleterre, t'as certains mythes. Hein. Liverpool, c'est incroyable. Alors, chacun se fera son idée. Je ne veux pas vous spoiler, mais si vous êtes à Liverpool, c'est bien 5 minutes quand ils chantent au début. Puis après, tout le monde s'assoit et regarde le match, effectivement.
Ça dépend sur les gros matchs. C'est-à-dire qu'effectivement, en Angleterre, l'ambiance va être sur les très, très, très gros matchs de championnat, éventuellement sur des gros matchs de Coupe d'Europe. Et en général, c'est plutôt les supporters visiteurs qui chantent. Mais l'Angleterre, c'est une culture tribune différente. C'est une culture qui est très centrée sur les chants.
Le chant. Il n'y a pas de tifo, il n'y a rien de spectaculaire. Il n'y a pas de pyro.
Et quand tu fais asseoir les gens et que tu leur fais payer des sommes incroyables, ça chante un peu, mais ça chante plus. Par contre, effectivement, ce que la culture ultra dont on a parlé apporte, c'est ce côté spectacle et ce côté sympa. Moi, donc, je suis supporter des Girondins de Bordeaux. Le club, footballistiquement, c'est très, très moche. Le stade est excentré, difficile d'accès, etc. Mais depuis la descente en Ligue 2, pour des raisons qui en partie m'échappe, il y a une ferveur au stade qui est assez incroyable, qui fait que des jeunes peuvent être super contents d'aller au stade. Et aujourd'hui, t'as pas le virage sud à Bordeaux, les gens vont pas au stade. Alors Lens, maintenant ça a changé parce qu'ils ont une grosse équipe, mais si tu prenais Lens quand ils étaient en Ligue 2 ou Saint-Etienne quand ils sont en Ligue 2, si t'as pas les supporters à Saint-Etienne aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt d'aller au stade. C'est ça qui apporte une plus-value.
Mais tu vois, tu prêches un convaincu. Moi, je me alors sans faire de mon cas personnel quelque chose d'intéressant, hein, mais moi je suis venu au stade et au foot par les tribunes, c'est-à-dire que la première fois que j'ai été au parc, c'était à Bordeaux, 0-0, il pleuvait, mais je regardais pas le match. Enfin, tu vois, c'est l'animation des tribunes, c'est les chants, c'est ça, moi et je pense beaucoup d'autres personnes, qui nous a amené vers ça. Et je pense qu'effectivement, tu as des clubs, tu as parlé de Saint-Etienne, tu as parlé de Bordeaux, mais Bastia, par exemple, qui est en train de remonter les échelons avec un mouvement de supporters assez fervent.
Bastia, c'est le club de la Corse, il y a une vraie ferveur. Ouais.
Et exactement, c'est des clubs qui ont été maintenus à flot d'un point de vue populaire et qui ont pu capitaliser sur ça pour se reconstruire, qui font que le supporterisme et le mouvement ultra sont des composantes extrêmement importantes du club. Au début des années 2000, j'allais pas au parc parce que j'étais
t'aimais pas Fabrice Pancrate?
Pour le coup, j'aimais plutôt bien Fabrice Pancrate. Je pourrais citer d'autres joueurs, mais t'allais pas au parc nécessairement pour voir du foot ou parce que t'avais une garantie de victoire. T'allais vivre une expérience sociale, t'allais chanter, t'allais danser, tu vois, il y avait quelque chose qui se passait, mais qui était lié à l'expérience.
Dès qu'il n'y a plus les résultats, de toute façon, tu vas au stade pour.
Mais c'est ça, mais tu vois.
Pour ce qui se passe dans les tribunes.
Et complètement. Mais ça, je pense que ça a maintenu des gens dans l'expérience football, et Bordeaux est un bon exemple actuel, plus que ce qu'on veut le dire.
Et Strasbourg, par exemple, qui est un club qui tombe au plus bas du foot amateur et qui se reconstruit avec des dirigeants locaux et avec des associations de supporters qui abandonnent pas le club, qui l'aident. Et finalement, la Méno devient un sanctuaire, un endroit où les gens viennent en masse. Et aujourd'hui, c'est vachement intéressant puisque Strasbourg est au cœur de sujets sur la multipropriété des clubs. Est-ce que ce club qui s'était reconstruit par un ancrage local va perdre son identité? Il y a des questions qui sont fondamentales.
Alternative football.
Alternative football. dans quelle mesure les clubs peuvent financer ou peuvent aider les groupes de supporters et les groupes ultra financièrement ou dans les aides? À quel point ils sont dépendants aussi du club parfois?
Il y a une règle, entre guillemets, qui est assumée par tous les ultras, c'est l'idée d'autonomie, d'indépendance, qui peut prendre des sens différents. Pour certains, c'est l'autonomie de pensée, donc on peut recevoir de l'argent du club qui peut nous finir des déplacements si on reste autonome dans la manière dont on pense le club et si on continue éventuellement à ne pas être d'accord avec lui, c'est acceptable. Pour la plupart des groupes, recevoir de l'argent n'est pas forcément quelque chose qui est apprécié. Après, il y a des logiques différentes. Si on va sur l'Italie, il y a quand même un certain nombre de pratiques mafieuses dans certains groupes ultra, avec des trafics de places, des trafics de places de parking, du trafic de drogue, etc. Bon, la France est heureusement largement épargnée par ça, mais en fait, ce que les clubs peuvent faire par contre, c'est réfléchir à la place de leur public. C'est ce que Strasbourg a fait, c'est ce que Toulouse, quelque part, une dynamique assez intéressante, qui est très étonnante, parce que d'un côté, le projet sportif, un projet sur les data... Bon, ça t'envoie pas du rêve, mais par contre...
C'est chiant, les datas.
Ouais, il y a que Opta qui s'intéresse. Enfin, je veux dire, ça me fait pas rêver. Mais ils ont réussi à re-ancrer leur club dans la ville et à faire du TFC un motif de fierté pour les Toulousains.
Dans une ville rugby. Hein.
Et dans une ville qui est pas si rugby que ça, si tu regardes historiquement. Il se trouve que je suis originaire de Bordeaux et je travaille sur Bordeaux et Toulouse, mais dans les années 80, le TFC joue contre le NAP de Maradona, vous en avez tous entendu parler, etc. Il se qualifie au tir au but. Et moi, j'avais fait des matchs à Toulouse dans les années 80. Il y a une sacrée ambiance. En fait, ce qui se passe dans les années 80, c'est que le TFC commence à percer et puis finalement rentre très très vite dans le rang, alors que le Stade Toulousain devient le principal club français et est le principal club français au moment de la bascule du rugby dans le monde professionnel. Et donc là, Toulouse devient entre guillemets une ville de rugby. Comme quand les Girondins sont devenus un grand club à Bordeaux, les gens disaient, mais c'est pas possible, c'est une ville de rugby.
Ouais.
Paf, alors les Girondins sont développés. Et on a dit c'est une ville de foot. Et puis maintenant l'UBB a une place qui est peut-être plus importante, donc c'est une ville de rugby. En fait, c'est une ville où il y a les deux sports. Et le génie du TFC actuellement, c'est d'avoir réussi à se positionner par en opposition au Stade Toulousain, mais dire il y a aussi un intérêt pour le foot qui est très fort. Vous l'avez rappelé, hein, c'est le sport numéro un sur tout le territoire. Et donc que les gens puissent être fiers d'un club qui en plus a la chance de gagner la Coupe de France l'an dernier, mais qui sans ça avait quand même une dynamique de retour du public au stade pour voir le TFC, parce que pendant longtemps, les TFC Marseille, c'était un grand moment de solitude pour les 12 supporters toulousains qui avaient en face 30 000 supporters marseillais. Et là, aujourd'hui, tu as un TFC Marseille, c'est presque l'inverse. Quoi. Donc, les clubs, ce qu'ils peuvent faire, c'est ce qu'on m'a un peu dit en parlant des référents supporters, c'est penser quel ancrage local je veux avoir, comment je fais en sorte que les gamins s'intéressent à mon club, ce qui n'est pas du tout évident à une époque où les gamins, ils peuvent voir jouer le Barça, le Manchester City, le Bayern de Munich. Moi, quand j'étais petit, t'es supporter du club de ta ville. Enfin bon, moi, en plus, elle avait des résultats, donc voilà. Mais là, aujourd'hui, t'as plein de gamins qui peuvent être tentés d'aller voir d'autres clubs. Et déjà, si t'arrives à, dans ta base locale, faire en sorte que les gamins ils soient contents d'aller au stade et contents de revenir, donc il faut que tu leur fournisses une qualité de spectacle sur le terrain, mais si tu leur fournis, comme disent les gens du management du sport, une expérience stade intéressante, c'est pas mal. Surtout si cette expérience stade, elle est aussi une expérience un peu populaire d'ambiance que t'évoquais tout à l'heure.
Ah non, mais je suis convaincu que le retour à la territorialité, c'est un levier extrêmement important pour les clubs, y compris les plus grands. Encore une fois, sans faire du cas du PSG ou de Marseille des cas plus importants que les autres. Dans cette mondialisation du football, dans l'individualisation du football, qui fait qu'aujourd'hui, les générations suivent les joueurs, sont fans de Messi, alors je les suis là. Le retour à ce que représente le club dans le tissu social local et ce que dit le club de la ville, je pense que c'est un levier extrêmement important. C'est aussi de ça que sont garants les ultras, parce que les ultras, par définition, ils sont du coin. Des ultras qui font 900 km tous les week-ends, ça existe. C'est un peu comme les poissons volants, quoi. C'est pas le.
Il y en a pas mal sur des gros clubs comme l'OM. Ils ont beaucoup de. Il y a un collègue sociologue, Ludovic Lestrelin, qui a travaillé sur les supporters à distance, notamment sur les cas des supporters de l'OM qui habitent loin.
C'est bien comme formulation, ça.
C'est ça. Et c'est un truc qui se développe. Tu as des gens qui sont accros d'un club. club dont ils ne sont pas originaires de la ville du tout. Donc c'est pas du tout marginal, hein, le supporterisme à distance. Et même pour le PSG aujourd'hui, ils ont des fans partout sur le territoire, pour l'OM avant. Mais c'est vrai que tu ne peux pas penser uniquement au public mondial et public globalisé. C'est un peu les débats qu'il y avait autour de la Super League, avec les grands clubs qui disaient finalement on fait ça pour le public parce que les gens veulent voir les meilleurs clubs. Y a une partie du public qui effectivement a envie de voir Bayern, Barça tous les ans, mais il y a une partie du public qui a envie de voir Bayern Darmstadt tous les ans aussi, quoi. Le football est un peu sur cette question-là, vers quoi on se développe. Est-ce qu'on se développe dans la continuité de notre histoire en maintenant quand même ce lien territoire, proximité, ou est-ce qu'on bascule sur un football à l'américaine avec une Super League avec les meilleurs clubs et puis le reste qui fonctionne comme ça a fonctionné avant. Les différentes options sont possibles. Moi, en tout cas, étant un supporter d'un club qui ne va pas jouer la Champions League demain, à la limite, pour moi, c'est abstrait, quoi.
Oui.
Si tu veux, tu peux avoir... moi, Bayern-Barça, quand j'étais petit, ça m'excitait comme un pou. Maintenant, t'en as tous les deux jours.
Oui, t'en as toutes les saisons.
Ça banalise.
Et puis, c'est vrai que le phénomène du supporter à distance, c'est une expression que j'aime beaucoup et je vais réutiliser ça. Effectivement, il a été extrêmement présent. Depuis très longtemps, mais mon point c'était aussi plus tu arrives toi à être proche de ton identité, plus je pense que même tes supporters à distance vont sentir leur appartenance au club renforcée par ça.
C'est ce que Ludovic montrait sur les supporters marseillais. Ouais, c'est-à-dire même quand t'étais loin.
Plus l'OM est marseillais, plus les Marseillais d'ailleurs.
Voilà, ont envie de coller à cette identité.
C'est pareil pour Paris.
En plus, Marseille, c'est une identité particulière, une ville cosmopolite qui s'est construite sur une identité particulière. Mais c'est vrai que les supporters à distance de l'OM collaient à cette identité marseillaise de manière très forte.
Il nous reste 5 minutes, puisque vous avez tous.
C'est dommage, parce que j'ai encore plein de.
Moi aussi, j'ai plein de questions, mais je sais que vous devez potentiellement y aller. Après, moi, ça me donne du travail parce qu'il faut que je réécoute le podcast.
C'est ça, surtout. Et que tu veux pas travailler.
Il faut que je le réduise à en dessous d'une heure. Donc, et comme là, c'était toujours.
Bon, t'as qu'à faire deux podcasts d'une heure.
C'est ce qu'on a déjà fait.
C'est
ce qu'on fait beaucoup, mais on l'a un peu trop fait dernièrement. Mais, et du coup, juste pour revenir à. C'était une question sur le fait que tu disais que si on prépare bien les matchs en amont, si on prend vraiment un mois pour les préparer, ça permet vraiment d'éviter les incidents. Mais pour reprendre le cas de l'incident qui s'est passé à Nantes, dans quelle mesure tu peux anticiper jusqu'à ce que un supporter niçois qui a pris son billet par lui-même prenne un taxi et se retrouve il y a forcément des gens ou des supporters, tu peux pas maîtriser. Je pense, peut-être que je me trompe hein, et tu vas me dire, mais tu peux pas maîtriser les mouvements de tout le monde. Donc dans quelle mesure le risque, zéro est possible.
Le risque zéro n'existe pas. Okay. Tu auras toujours des incidents. Il y a toujours eu des incidents autour du football depuis que le football est spectacle. Ce que tu peux faire, c'est essayer de les limiter, ça c'est certain. Mais il y a deux incidents qui sont intéressants sur la période récente, c'est le Marseille-Lyon et le Nantes-Nice. Le Marseille-Lyon, le match a été énormément préparé en amont. La préfète des Bouches-du-Rhône a fait des efforts considérables pour que les supporters lyonnais reviennent, etc. Sauf que ça se passe mal parce qu'il y a toujours ce problème d'accès des bus, des joueurs et des supporters visiteurs à Marseille. Donc ça, tant qu'on l'aura pas résolu, tant qu'on n'aura pas retrouvé des trajets sécurisés,
c'est
un problème urbain. Oui,
les gens qui n'ont jamais été au Vélodrome, je pense, ont du mal à le percevoir.
Tu dois quand même pouvoir. Ça fait quand même des années qu'il y a des problèmes à Marseille.
Il faut fermer les accès.
Il y a un moment où tu dois quand même pouvoir sécuriser ça. Et il y a aussi des défauts des clubs, l'Olympique. Lyonnais se retrouve dans sa tribune avec des gens qui sont des hooligans notoires, c'est pas forcément idéal. Et t'es jamais à l'abri de supporters qui sont un peu en marge des groupes, qui font des conneries. Par contre, ce que je dis, c'est plus t'anticipes, plus tu peux être capable de dire, ce match-là, non. On sent que c'est pas possible, donc on interdit le déplacement et les supporters peuvent l'accepter si tu le fais pas souvent. C'est exactement ce que tu dis tout à l'heure. Si tu fais des interdictions tout le temps, au bout d'un moment, elles perdent toute légitimité. Si tu fais des interdictions ciblées sur des matchs vraiment dangereux, que ça arrive pas souvent, les gens peuvent dire oui, là, effectivement, il y a eu des incidents sur ces matchs récents, il y a des gens qui sont incontrôlables dans ces groupes de supporters-là, c'est pas possible. Il y a aussi une question de responsabilisation des associations de supporters. Alors, elles maîtrisent pas tout, mais elles peuvent faire en sorte d'éviter un certain nombre de confrontations. confrontation. Ce qui est intéressant, par exemple, sur Marseille-Lyon, c'est que certains leaders associatifs marseillais ont dénoncé ceux qui étaient à la TQ et les bus en disant « Attendez, on s'est fait chier, on a discuté avec la préfecture pour faire en sorte que les supporters puissent se déplacer. Là, quelque part, c'est un coup de couteau dans le dos que vous nous mettez. » Donc, cet exemple de Marseille-Lyon, il montre que sur des matchs risqués, peut-être qu'à certains moments, il vaut mieux interdire et que si on veut assurer la sécurité, il faut l'anticiper comme ça a été fait sur ce match-là, mais vraiment que tout le monde joue le jeu. Aussi bien la préfecture sur les trajets, les clubs pour vérifier que leurs supporters ne vont pas faire des conneries, les associations de supporters aussi pour limiter un certain nombre de débordements. Sur Nantes-Nice, d'abord, c'est un truc improbable, Nantes-Nice. C'est-à-dire que c'est des supporters qui prennent un VTC en respectant pas un arrêté d'encadrement et qui passent par un endroit où les gens vont au stade à pied et qui se font repérer. Ça commence à bousculer les bagnoles. Et là, il y a des gens qui connaissent rien au truc, qui sortent avec des matraques et des couteaux. Et il y en a un qui donne deux coups de couteau. Alors, pour l'instant, c'est les informations qu'on a pu recueillir, soit par l'enquête, soit ce qu'on a pu nous dire. Mais c'est une succession de malheureux hasards, finalement. Avec une question quand même que doivent se poser les associations de supporters à deux niveaux. C'est-à-dire, quand tu respectes pas un arrêté d'encadrement comme on fait les Niçois, quelque part, tu te mets en danger et tu mets aussi en danger la possibilité de prochains déplacements. Alors, on en revient à la question précédente. C'est-à-dire que s'il y a trop d'arrêtés d'interdiction d'encadrement, du coup, les gens font n'importe quoi. Si les arrêtés d'interdiction et d'encadrement sont bien proportionnés au risque, des groupes de supporters qui ne les respectent pas, c'est absolument indéfendable et ils doivent balayer devant leur porte. Il faut aussi que, dans le contexte actuel, les associations de supporters s'interrogent. Est-ce qu'on est obligé d'attaquer les supporters adverses alors qu'on se plaint de ne pas pouvoir se déplacer? Donc oui, je pense que là il y a des prises de conscience fortes à faire et c'est pour ça que plutôt que des grandes solutions miracles, il faut que tout le monde se mette un peu autour de la table et voir ses responsabilités. Les autorités ont des responsabilités, on a vu qu'elles n'ont pas su organiser certains matchs. Les clubs parfois font un bon travail avec leurs supporters, anticipent bien les risques, d'autres fois ils ne font pas le boulot. Les associations de supporters parfois sont réglo et se font déborder par des types qu'elles ne maîtrisent pas et d'autres fois elles font des conneries. Et donc si on arrivait de sortir d'une logique un peu c'est les autorités contre les supporters mais on va parler management moderne à faire du gagnant-gagnant, finalement tout le monde a y gagné, que les déplacements se passent bien, les supporters parce qu'ils peuvent se déplacer, les autorités parce que c'est bien géré, il n'y a pas de problème, et c'est ça, j'espère que cette dynamique pourra s'enclencher, parce que là depuis la mort de Maxime à Nantes, on oscille à certains moments entre des messages qui vont dire on va interdire tous les déplacements de supporters tout le temps, ce qui est de fait inapplicable et qui va nous causer plus de problèmes qu'autre chose. Et d'un autre côté, on va dire, on va essayer de retravailler, etc. Pour l'instant, on n'a pas de vision très claire. Là, sur la réunion du 18 décembre de ce matin, la ministre des Sports a fixé un cap, justement, de co-construction d'un modèle à la française où on anticipe, où chaque acteur apporte sa pierre à l'édifice, aussi bien les pouvoirs publics que la Ligue, que les clubs, que les associations de supporters. Ça suppose un travail de co-construction, un vrai travail. Si ça peut se mettre en place, c'est positif. Mais par contre, il y a quand même des tendances très fortes aussi à dire on interdit tous les déplacements de supporters tout le temps. D'une part, je ne suis pas sûr que ce soit viable, parce que je pense que ça va poser d'autres problèmes. Et d'autre part, ce serait une défaite du football.
Et puis, la réalité, c'est que les gens vont se déplacer.
Les gens vont se déplacer.
Et ce ne sera pas contrôlé, ce ne sera pas organisé.
Voilà, et on va avoir d'autres types de risques.
Et c'est le plus grand danger. C'est
le débat va revenir. Exactement. Et le débat reviendra tout le temps.
Permettra de faire d'autres podcasts.
Ah ouais, c'est ça.
Exactement. Et simplement, avant qu'on conclue, pour que Maxime n'ait pas trop de
aussi
de
parce
montage,
que vous avez des impératifs chacun,
ouais, et aussi
parce de
que,
votre côté. Hein.
Maxime a beaucoup de choses à faire, et ça, pour le coup, c'est pas du tout une blague, mais quand il fait pas des pop-up stores, il organise le vrai
Foot
Day,
il
fait des podcasts, donc on se demande si les journées de Maxime font pas
48 heures.
Ouais.
48.
Bon, allez, votre aussi, messieurs.
Et simplement un dernier point, parce qu'on a balayé de manière assez large des supporters et des ultras, il y a un truc qu'on n'a pas forcément évoqué. Il y a quand même quelque chose qui revient très souvent chez les organisations ultras, c'est l'importance de la solidarité et du tissu social local. C'est-à-dire que ça a toujours été dans l'histoire des ultras des gens qui agissaient pour la communauté, qui menaient des actions, des maraudes, d'aller organiser les journées parfois des joueurs dans les hôpitaux. Donc il y a une vraie conscience sociale, sociale
et sociétale,
et sociétale chez l'ultra de manière générale, chez l'ultra et de manière générale chez le supporter. Et je pense c'est aussi en capitalisant, j'ai du mal à finir mes mots et le podcast, en capitalisant sur cette conscience-là qu'on peut, je pense, derrière aller les chercher sur les sujets plus structurants pour eux, à savoir le déplacement, le rapport avec l'autre groupe, etc., etc.
Mais c'est intéressant à deux niveaux ce que tu dis. D'une part, le monde ultra est un monde hyper ambivalent, avec à la fois des aspects qui sont perçus de manière très positive par le monde du foot et par les acteurs sociaux, l'ambiance qu'ils peuvent mettre, les actions sociales, etc., et parfois des aspects très négatifs de violence. Et c'est aussi intéressant par rapport à la dynamique associative. C'est-à-dire qu'au début, les ultras, quand ils s'implantent, l'enjeu, c'est d'arriver justement à s'implanter dans la tribune, à se faire reconnaître et à être le moteur de l'ambiance dans la tribune. Mais une fois qu'ils sont ça, très vite, la dynamique associative se met en place et l'enjeu, c'est de montrer que c'est plus que du foot. C'est-à-dire qu'il y a un ancrage local et que c'est important aussi de s'ancrer dans la communauté. C'est passé notamment par le rôle qu'ils pouvaient avoir à partir du moment où les groupes ont eu un local qui louait en ville. Les groupes marseillais, à partir du moment où ils ont eu un local en ville, ils sont impliqués dans le quartier dans lequel ils étaient. Ils ont noué des liens avec d'autres associations. Et au bout de quelques années de vie, la plupart des groupes ultra, ils se sont dit, bon, on ne doit pas faire que le stade. Il faut aussi qu'on renvoie à la ville un certain nombre de choses, qu'on profite de notre vie associative. Et c'est des choses que les gens ont découvertes au moment de la crise sanitaire, puisque les groupes ultra ne pouvaient plus agir en tribune, mais ils ont fait plein d'actions auprès des personnels soignants, auprès des hôpitaux, etc. Et ça, c'est une dimension qui est forte parce qu'il y a la volonté chez les ultras d'encourager une équipe, mais d'aller au-delà du club et du foot, d'aller dans la ville, dans le territoire et de dire ben, on est une force associative importante. Et c'est des choses que les gens ont... Tu posais la question du pouvoir, Maxime, tout à l'heure. C'est des gens, les gens ne comprennent pas forcément à Marseille le poids des associations de supporters. Les associations de supporters, elles ont des milliers d'adhérents et elles ont un rôle dans le tissu social qui est considérable. Et si tu ne comprends pas ce rôle-là dans le tissu social que peuvent avoir les associations de supporters à Marseille, que pouvaient avoir à certains moments les associations parisiennes. Bon, aujourd'hui, c'est un peu différent, mais tu ne comprends pas finalement ce que c'est l'ensemble de la dynamique ultra. Et toute la question qui finalement s'est posée autour du PSG avec le plan Leprou, c'est qu'est-ce qu'on fait des ultras? Est-ce qu'on considère que parce que sous certains aspects, il y a des débordements récurrents, des violences, etc., on vire complètement les ultras, ce que le PSG a tenté de faire pendant 6 ans? Ou est-ce que, autre optique, on dit que bah, effectivement, les ultras, il y a des problèmes, mais il y a aussi plein d'aspects positifs comme ceux que tu as évoqués. On essaye de développer les aspects positifs et de limiter les aspects négatifs. Moi, c'est plutôt là-dessus que j'ai essayé de travailler. Voilà, et c'est une ligne de crête. Il faut être quand même capable à la fois de limiter les aspects négatifs, parce qu'il peut y avoir des aspects négatifs dans ces groupes, c'est incontestable, mais passer à côté de tout ce que ça peut apporter en termes de mixité sociale, d'action avec d'autres associations, c'est un peu dommage, parce que c'est vraiment des acteurs associatifs majeurs, comme tu le disais, à mon avis, à juste titre.
Et même de spectacle, parce qu'on en revenait, tu n'as pas une bande-annonce sans que tu aies un plan sur un joueur, un plan sur les tribunes, un plan sur un joueur, etc.
Dernière question du coup pour conclure, quel avenir pour les ultras? Sont-ils condamnés ou à disparaître, à se taire, ou au contraire il faut, dans toi, ce que tu sens, les dynamiques, même vis-à-vis des pouvoirs publics, est-ce que tu sens que les lendemains peuvent être plus joyeux, plus co-construits, coopératifs? Qu'est-ce que tu ressens, toi ?
Mais j'ai envie de te dire que j'ai répondu à ta question. Je pense qu'il y a deux possibilités. Soit on arrive à construire un football dans lequel les groupes de supporters ont une place, ce qui suppose qu'ils soient reconnus comme un acteur à part entière, et ça suppose qu'eux aussi jouent le jeu pour limiter certains débordements. Soit au contraire, soit la radicalité ultra, soit la radicalité de la réaction sociale, parfois qui peut être à côté de la plaque, fait que les ultras disparaîtront. Alors ça paraît difficile à court terme parce qu'ils ont vraiment un ancrage dans le football et dans la ville qui est important. Donc il me paraît plus réaliste pour la société et pour le monde du foot de dire on a un acteur qui est quand même un acteur majeur dans la vie associative de plein de villes. Comment on en tient compte? Comment on s'appuie sur ce qu'il peut nous apporter en limitant un certain nombre de nuisances? Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, quand même, il y a aujourd'hui à la tête d'un certain nombre de groupes ultra des gens avec qui on peut dialoguer. Il faut arriver à construire avec eux, il faut arriver aussi que eux se remettent en cause sur certains aspects, notamment dans le rapport à la violence. Je sais bien que ça fait partie intégrante du milieu ultra et que c'est un truc avec lequel ils ont du mal à rompre, mais si tu veux continuer à te déplacer, si tu veux continuer à être entendu, à un moment, il faut être capable aussi de mettre un peu d'eau dans ton vin.
Alors j'ose espérer, avec toute la naïveté qui est la mienne parfois, qu'effectivement on va vers une construction et que c'est quand même, enfin, le mouvement ultra fait partie fait partie de notre football. Il contribue, est un acteur, ça on l'a établi. Mais ça le rend meilleur dans le spectacle, dans l'envie d'aller au stade. Et c'est aussi important pour les clubs d'amener des gens au stade, parce que les revenus stade, c'est quand même une ligne importante en fin d'année. Et puis, il y a aussi des choses qui vont dans la bonne direction. C'est-à-dire que pendant très longtemps, la pyro, donc les fumigènes, étaient un vrai problème. Ça s'est relativement assoupli. On est dans une phase plus ou moins de test sur le fait de les utiliser. Tu as aussi la possibilité, enfin, tu as aussi la technologie qui évolue. Tu vois maintenant des fumis froids, c'est-à-dire qu'ils présentent des risques de blessures moins importants. Donc ça passera aussi par mieux comprendre ce mouvement-là et l'accompagner dans la manière dont il exprime son soutien. Mais je te voyais...
Ce qui est fabuleux, c'est que quand même on a réussi à discuter, je vous dis pas, hein, ça fait 3h30 qu'on enregistre, à discuter du mouvement ultra, sans encore parler de fumigène, ouais. Ce qui est relativement atypique. Ouais. On est dans une période un peu particulière en France, parce que la France est un pays très avancé, en ce sens qu'il y a une expérimentation pour de la pyrotechnie encadrée, qui intéresse certains groupes. D'autres groupes sont moins fans de ça, parce qu'il y a quand même une dimension un peu rebelle et radicale chez les ultras. Donc et rentrer dans le cadre d'un dossier pour autoriser, avoir un allumage autorisé, c'est pas évident.
Et puis t'as certains groupes, pardon, je te coupe, certaines tribunes particulièrement, chez qui c'est dans l'ADN. Le virage Auteuil, c'est complètement dans l'ADN
partout, mais il y a quand même, tu disais aujourd'hui, tout va bien sur la pyro. Moi j'aurais une nuance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui t'as quand même beaucoup d'usages d'engins, ça s'est très démocratisé, tu as accès à plein d'engins de manière très très facile à bas coût. Et si vous regardez, il y a de plus en plus de feux d'artifice qui sont tirés dans les tribunes. Ouais. On n'est pas certain que ce soit toujours totalement maîtrisé. Et donc moi, c'est pour ça que je suis assez partisan d'avoir une pyro encadrée qui laisse une certaine liberté au groupe. Il faut encore travailler sur cette marge de liberté qui, pour l'instant, est relativement contrainte, pour être certain qu'on n'ait pas des allumages complètement délirants, de trucs qui peuvent être dangereux aussi. Parce que dans certains cas, quand tu vois des feux d'artifice qui partent direct dans le toit, ou etc., tu te dis, bon, on maîtrise quand même pas tout.
Je disais pas du tout que tu vas mettre sur la pyro, simplement, je me rappelle de la pyro de mon époque, et le fait simplement qu'aujourd'hui ce soit discuté et qu'il y ait un consensus sur le fait qu'on peut regarder si c'est encadré, que la tech qui a été développée, c'est aujourd'hui un sujet qui est avéré et on en parle, plutôt que
interdit.
C'est forcément interdire.
Bah merci Nicolas, aurait pu continuer encore longtemps, je pense qu'il y a plein de questions, il y aura peut-être à défaut d'avoir un épisode coupé en deux, il y aura peut-être une seconde invitation dès que l'actualité et aussi ton actualité, parce que c'est grâce à cette réunion au ministère qu'on a pu t'avoir aujourd'hui, parce que ça fait quelques temps qu'on t'a contacté et qu'on ne savait pas pu se faire, donc merci madame la ministre.
Merci pour l'invitation.
non mais merci beaucoup Nicolas, c'était très intéressant et c'est effectivement un épisode qu'on a mérité deux, mais...
Et n'hésitez pas, du coup, comme cette personne qui nous a écrit sur LinkedIn et qui nous a soumis cette proposition de sujet, à nous suivre sur LinkedIn, sur Twitter et je crois bientôt sur Instagram.
Déjà sur Instagram.
Et à nous soumettre vos idées de sujets. Et aussi, n'hésitez pas aussi, Mathieu l'a longtemps répété, à nous mettre une petite note.
Liker, commenter.
Commenter, à nous mettre une petite note sur les plateformes d'écoute. Et puis, on vous dit à dans 15 jours pour le prochain épisode d'Alternative Football. Merci encore, Nicolas.
Merci à vous.
Ciao, ciao.
Alternative Football. Alternative Football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative Football.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.